Chapitre 57. Accablée par un sentiment de solitude pire que tout ce qu'elle avait connu, Callan avançait vers le nord-est. S'il n'y avait pas d'avenir, pourquoi se battre ainsi pour survivre? Honnêtement, elle n'aurait su que répondre. Continuer d'exister sans savoir qui elle était vraiment et dans un monde dominé par l'ordre impérial, en quoi cela pouvait-il valoir la peine? Les fanatiques de l'ordre rêvaient d'un monde entièrement soumis à leurs croyances fantaisistes. Pour atteindre cet objectif, ils étaient prêts à abattre tous les gens qui ne pensaient pas comme eux. Face à une telle violence, ne valait-il pas mieux baisser les bras lorsqu'on appartenait au camp voué à l'extermination? De toute façon, le résultat était couru d'avance. Si Callan renonçait, nul ne le saurait ni ne lui en voudrait. Mais elle s'en tiendrait rigueur. Quand on gaspillait sa vie, la jetant aux oiseaux comme des miettes de pain, on se privait de son bien le plus précieux. Même si tout jouait contre elle, la femme de Richard Rall, ou sa veuve peut-être, ne pouvait pas se résoudre à tant de lâcheté. Samuel avait choisi son destin et payé pour ses actes. Même si elle n'avait aucun crime sur la conscience, Callan devait s'inspirer de la trajectoire du complice de Six, au moins sur un point, son inéluctable logique. Quoi que lui réserve l'avenir, elle devait l'accepter et tenter d'en tirer le meilleur. Une heure après s'être mise en chemin, Callan avait entendu un roulement de sabots derrière elle. Puis, elle avait repéré des cavaliers qui avançaient dans sa direction. Marquant une pause, elle sonda la vallée environnante. La forêt qui bordait les contreforts des murailles rocheuses des deux côtés était trop loin pour qu'elle puisse se mettre à couvert à temps, et les hautes herbes aplaties par le vent et les intempéries ne suffiraient pas à la dissimuler. De plus, ses poursuivants semblaient l'avoir déjà repérée, et à la vitesse où galopaient les chevaux, ils ne tarderaient plus à arriver. Callan jeta la sacoche de sel sur le sol, puis elle fit passer le fourreau de l'épée dans sa main gauche. Sa seule chance était d'attendre et de se battre. Soudain, un détail lui revint à l'esprit. Pour la plupart des gens, elle était invisible. En conséquence, ses poursuivants ne pouvaient pas l'avoir repérée. S'il fonçait vers elle, c'était un hasard, et il lui suffirait probablement de se laisser dépasser lorsqu'ils arriveraient à son niveau. Cela dit, Jagang avait recruté les fameux anges gardiens. Si elle ne les avait pas tous tués, son raisonnement ne tenait plus et elle allait quand même devoir se battre. Au cas où les cavaliers la verraient, mais qu'il n'ait pas d'intention inamicale à son égard, elle préféra ne pas dégainer l'épée. Si c'était possible, elle préférait éviter un affrontement, et de toute façon, une fraction de seconde lui suffirait pour tirer au clair la magnifique lame. Elle avait également deux couteaux, mais se battre à l'épée ne lui faisait pas peur. Même si elle ignorait où elle avait appris l'escrime, elle savait qu'elle n'avait pas à rougir de ses compétences. Richard avait lui aussi un grand talent dans ce domaine. Avait-il été son professeur? Plissant les yeux, Callan vit enfin que deux des trois chevaux qui approchaient n'avaient pas de cavalier. Une excellente nouvelle. Les statistiques n'étaient plus contre elle. Quand les trois bêtes s'arrêtèrent non loin d'elle, Callan reconnut le cavalier en question et elle eut du mal à en croire ses yeux.
« Richard !»
s'écria-t-elle. Son mari sauta à terre et courut vers elle.
« Tu vas bien ? »
demanda-t-il.
« Oui. »«
Tu as utilisé ton pouvoir, n'est-ce pas ? » ?»«
Comment le sais-tu ? » ?»«
Je l'ai senti, je crois. En tout cas, je suis sacrément content de t'avoir retrouvé. » En le regardant, Callan se désola d'être incapable de se remémorer leur passé commun.
« J'ai eu peur que tu sois mort, » dit-elle. « Je ne voulais pas t'abandonner, mais tu m'as crié de fuir. »
Richard se contenta de la regarder, les yeux écarquillés comme s'il craignait de rêver. Callan se souvint de la façon dont il s'était battu après avoir déclenché une guerre comme Nietzsche l'avait prévu. Tel un danseur, il s'était frayé un chemin à travers la horde de brutes qui rêvait de lui passer une lame à travers le corps. L'épée que maniait Richard à ces moments-là devenait une extension de son corps et de son esprit. Exécutant un fabuleux ballet dont la mort était la danseuse étoile, il parvenait à esquiver tous les coups avec la grâce d'un artiste. Callan tendit l'épée à son mari.
« Toute l'âme a besoin d'un maître à sa hauteur. »
Le sourire de Richard, tel une soudaine embellie du soleil par une froide journée d'hiver, réchauffa le cœur de Callan. Après une longue hésitation, le sourcier s'empara de l'arme, glissa la tête dans le baudrier par-dessus son épaule droite et s'assura que le fourreau reposait au bon endroit sur sa hanche gauche. Contrairement à ce qui se passait avec Samuel, l'arme semblait faite pour lui.
« Samuel est mort !»
annonça Callan.
« Je m'en doutais !»
dit simplement Richard. Il posa la main sur le pommeau de son arme.
« Par bonheur, il ne t'a pas fait de mal. »
« Il a essayé, c'est pour ça qu'il n'est plus de ce monde. »
Richard acquiesça.
« Callan, je ne peux pas tout te dire maintenant, mais beaucoup de choses sont en cours et... »«
Je sais le plus important, Richard. »«
C'est-à-dire ?»«
Samuel m'a dit que nous sommes mariés. »
Richard se pétrifia et une angoisse incoercible voila son regard. Alors qu'il aurait dû la prendre dans ses bras et lui dire à quel point il était heureux de la retrouver, il regardait Callan comme si elle le terrorisait.
« Je suppose que nous nous aimions ?»«
Ce n'est pas le moment d'en parler. »«
Callan, nous sommes dans une situation très difficile, je ne peux pas tout t'expliquer, mais... »« En d'autres termes, nous n'étions pas amoureux l'un de l'autre ?»
Elle n'avait jamais envisagé cette possibilité.
Quelle idiote romantique elle faisait! Et en face d'elle, le fabuleux seigneur Hal, héros du monde libre, ne savait absolument pas que dire. Lamentable. C'était un mariage arrangé? La mère inquisitrice et le seigneur Hal, pour le bien de leur peuple respectif, une alliance de circonstances, c'est ça?
L'air plus terrifié que Samuel pendant qu'elle l'interrogeait, Richard cherchait désespérément une réponse convenable.
« Ne t'en fais pas. Tu ne heurtes pas mes sentiments, puisque je les ai oubliés. Mais dis-moi la vérité. C'était un mariage politique ?»«
Callan,
il n'y a pas d'amour entre nous ? Réponds, je t'en prie. »«
C'est plus compliqué que ça. J'ai des responsabilités. »
Exactement la réponse qu'avait faite Nietzsche. Confrontés à la réalité, ils s'en sortaient tous les deux de la même façon. Callan se demanda comment elle avait pu s'aveugler ainsi.
Richard aimait Nietzsche, ça tombait sous le sens.
« Tu dois me faire confiance, » dit Richard.
« Les enjeux sont énormes. »
Le visage de marbre, Callan hocha la tête. Si elle parlait, sa voix la trahirait, mais tant qu'il ne lui demandait rien,
« Callan, écoute-moi, je t'en prie. » « Je t'expliquerai tout bientôt, c'est promis, mais pour l'instant tu dois me faire confiance. »
Au nom de quoi se serait-elle fiée à un homme qui l'avait épousée sans l'aimer? Callan aurait voulu poser la question, mais il y avait cette boule dans sa gorge.
« Je te dirai tout, crois-moi, mais pour le moment nous devons aller le plus vite possible à Tamarang. »«
Il ne vaudrait mieux pas, »
parvint à dire Callan.
« Six y est. »«
Je sais, mais je dois y aller quand même. »
« Ne compte pas sur moi pour t'accompagner. »
Richard prit le temps de la réflexion.
« Je ne veux pas qu'il t'arrive d'autres ennuis. Tu dois m'accompagner. Je te jure de tout expliquer. »«
Pourquoi ne pas le faire maintenant ?»«
Parce que nous allons mourir si nous ne nous dépêchons pas. Jagang va ouvrir les bois d'Ordaine. Je dois l'en empêcher. »«
Je te suivrai si tu réponds à cette question. M'aimais-tu quand tu m'as épousé ?»
Richard prit de nouveau le temps de peser ses mots.
En matière de mariage, je n'aurais pas eu de meilleur choix possible. C'est tout ce que je peux dire.
Le message était clair. Le cœur brisé, Callan fit signe qu'elle était prête à partir pour Tamarang. Que Sis l'attende ou non lui était indifférent à présent. Après la tombée de la nuit, les deux jeunes gens finirent par renoncer et s'arrêter. Richard aurait préféré continuer, mais sur un terrain très accidenté, avancer sans lumière aurait été trop dangereux. Le croissant de lune ne suffisait plus à produire assez de clarté, et dans un ciel plombé, celle des étoiles ne parvenait pas à compenser. La raison imposait un arrêt pour la nuit. Callan ne se sentait pas très vaillante. Tandis qu'il allumait un feu, elle constata que son compagnon était encore plus fatigué qu'elle. Depuis combien de temps n'avait-il pas dormi au juste? Une fois le feu allumé, Richard lança deux lignes de pêche dans le cours d'eau proche du camp, puis il entreprit de ramasser assez de bois pour alimenter le feu jusqu'au matin. Callan s'occupa de son mieux des chevaux, leur donnant à boire dans un seau en toile spéciale découvert parmi les affaires de Richard. À son retour, avec plus de bois qu'il en fallait, Richard releva ses lignes et revint avec deux belles truites. Alors qu'elle le regardait vider les poissons, en jetant dans le feu les entrailles afin de ne pas attirer de prédateurs, Callan décida de ne plus poser de questions sur leur relation. Les réponses la torturaient trop. De plus, elle connaissait déjà la plus importante. Elle était le meilleur choix possible en matière de mariage. Rien de plus. Richard ne l'avait peut-être jamais rencontrée avant de l'épouser. Pour Nietzsche, cette union politique avait dû être un crève-cœur, mais elle n'allait quand même pas la plaindre. De toute façon, elle devait cesser de penser à tout ça. « Pourquoi allons-nous à Tamarang ? » demanda-t-elle. Richard leva les yeux des truites qu'il finissait de parer. Il y a 3000 ans, les grandes guerres furent en somme la répétition générale du conflit que nous menons. Un camp voulait éradiquer la magie et l'autre luttait pour la préserver. Les défenseurs de la magie décidèrent de cacher leurs artefacts les plus précieux dans le temple des vents. Pour plus de sécurité, ils l'envoyèrent ensuite dans le royaume des morts.
Le domaine du gardien ?
Oui. Pendant ces guerres, les sorciers des deux camps ont inventé des sortilèges terrifiants et des armes redoutables. Des armes humaines, très souvent. Par exemple, les ancêtres de Jillian donnèrent naissance à ceux qui marchent dans les rêves, les lointains prédécesseurs de Jagang.
C'est de là que date la création de la chaîne de flammes ?
C'est exact. Les sorciers imaginaient sans cesse des armes et des défenses comme celles que mettaient au point leurs adversaires. Les boîtes d'Orden, par exemple, ont pour mission de combattre les effets du sort d'oubli.
J'ai entendu les sœurs en parler à Jagang.
L'histoire est très complexe, mais l'essentiel, c'est qu'un traître s'est introduit dans le temple des vents et a manipulé des pouvoirs afin d'aider et de renforcer ce qui serait un jour l'ordre impérial.
Il savait que le conflit reprendrait ?
Les gens comme Lautin ont compris que l'envie et la haine ne meurent jamais dans le cœur des hommes.
Et qu'a-t-il fait exactement ?
Pas mal de choses. Le pire est d'avoir assuré qu'un être capable de marcher dans les rêves vienne un jour au monde pour ranimer la flamme de la guerre. Bien entendu, c'est de Jagang qu'il s'agit.
Richard enveloppa chaque poisson dans une grande feuille enduite de boue, puis il les posa sur les braises au bord du feu.
En guise de riposte, nos prédécesseurs ont envoyé leur premier sorcier dans le temple. Nommé Barakus, c'était un sorcier de guerre. Et il s'est assuré que son unique successeur naisse au bon moment pour s'opposer à Jagang.
Callan s'enveloppa plus chaudement dans sa couverture parce qu'il commençait à faire frisquer malgré le feu.
Son unique successeur ? Et il n'y a pas eu de sorcier de guerre avant aujourd'hui ?
Je suis le premier en 3000 ans. Et c'est la conséquence directe de ce qu'a fait Barakus dans le temple. Conscient que son successeur ne saurait rien de ce qu'il était ni de ses pouvoirs, Barakus, à son retour, a écrit un livre intitulé « Les secrets du pouvoir d'un sorcier de guerre ». Il a chargé Magda Cyrus, sa femme adorée, de le cacher à mon intention. Il fallait absolument que personne d'autre ne puisse mettre la main dessus. Pendant que Magda accomplissait sa mission, Barakus s'est donné la mort.
« Pourquoi ?»
demanda Callan très surprise.
S'il aimait Magda, pour quelle raison l'a-t-il abandonnée ?
Je crois qu'il avait vu trop d'horreurs pendant la guerre, sans compter tout un cortège de reniements et de trahisons. Et il y a aussi son voyage dans le royaume des morts.
Callan, j'ai traversé le voile, et je sais qu'on ne revient pas indemne du domaine du gardien.
Callan posa le menton sur ses genoux.
Après ma captivité dans le camp de l'ordre, je comprends qu'on puisse renoncer à tout. Tu as besoin de ce livre pour vaincre l'ordre ?
Oui. Je l'avais trouvé, mais j'ai dû le cacher avant d'être emmené dans le camp de l'ordre.
Pour me sauver, pensa Callan.
Et maintenant, cet ouvrage est à Tamarang ? Bien sûr.
Sinon, qu'irions-nous y faire ? Callan acquiesça. Désormais, elle comprenait pourquoi ce voyage était si important.
Sais-tu ce qu'il est advenu de Magda Cyrus ? Demanda-t-elle.
Avec un bâton, Richard tira le premier poisson du feu. Ouvrant la papillote, il enfonça dedans la pointe de son couteau. La cuisson lui sembla parfaite.
« Fais attention, c'est très chaud !» dit-il en poussant le petit festin vers Callan.
Puis, il tira du feu la deuxième papillote. Après le suicide de son mari, Magda a eu le cœur brisé, bien entendu. Un peu après le conflit, la trahison de Lottin fut découverte et un problème se posa. Comment le faire parler ?
Un sorcier nommé Mérite imagina une solution. C'est ainsi que naquit la première inquisitrice.
Callan en oublia sa délicieuse truite.
Vraiment ? C'est l'origine des inquisitrices ? Et tu sais qui fut la première ?
Magda Cyrus, bien entendu. Désespérée, elle prit le risque de se prêter à l'expérience de Mérite. Plus tard, elle tomba amoureuse de lui et l'épousa.
De son passé, Callan savait exclusivement qu'elle était une inquisitrice. Désormais, elle connaissait la première de toutes les femmes comme elle, une amoureuse désespérée d'avoir perdu l'élu de son cœur.
Richard prit un morceau de bois, fit mine de le jeter dans les flammes, mais se ravisa et en choisit un autre.
« Tu ferais mieux de dormir, » dit-il. « Nous partirons dès les premières lueurs de l'aube. »
Callan constata de nouveau qu'il était encore plus épuisé qu'elle, mais il semblait troublé et il n'accepterait sûrement pas qu'elle prenne le premier tour de garde. Elle s'étendit près du feu et s'enveloppa dans sa couverture. Avant de s'endormir, elle vit que Richard contemplait pensivement le morceau de bois qu'il avait sauvé des flammes. Elle aurait cru qu'il s'intéresserait plutôt à son arme maintenant qu'il l'avait retrouvée.
Callan se réveilla très agréablement. Une bonne chose après ce que lui avait fait subir Samuel la veille. Se frottant les yeux, elle vit que Richard n'avait pas bougé. Assis devant les flammes, il devait ressasser sans cesse les responsabilités qui pesaient sur ses épaules.
« J'ai quelque chose pour toi, » dit-il d'une voix très douce. Un véritable bonheur auditif au réveil. Callan s'assit et s'étira voluptueusement. L'aube pointait déjà et il ne tarderait pas à se mettre en chemin.
« De quoi s'agit-il ? » demanda-t-elle pendant qu'elle pliait sa couverture.
Tu n'es pas obligé d'accepter, mais ça me ferait plaisir.
Je vois que tu es désorienté, Callan. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu as oublié qui tu es, et tu te demandes ce que tu fiches avec moi.
Je donnerais cher pour pouvoir tout expliquer, mais il est encore trop tôt. S'il te plaît, fais-moi confiance.
Callan détourna la tête. Regarder Richard dans les yeux était une épreuve trop douloureuse.
« En attendant, j'ai un cadeau pour toi.
Quoi » « Quoi ? »
Richard ramassa quelque chose derrière lui et tendit le bras vers Callan. C'était la statue qu'elle avait dû abandonner dans le jardin de la vie quand elle avait volé les boîtes d'Orden. Une femme, les poings sur les hanches, la tête inclinée en arrière vers le ciel, l'incarnation même de la résistance de l'esprit face à des forces acharnées à l'opprimer. Le bien le plus précieux de Callan, qu'elle avait dû abandonner derrière elle. Ce n'était pas la même statuette, mais une réplique parfaite en un peu plus petit. Un travail magnifique. Callan remarqua enfin les copeaux de bois sur le sol autour de Richard. Il avait veillé toute la nuit pour sculpter la statuette. « Elle se nomme Bravoure, » dit-il d'une voix vibrante d'émotion. « Tu acceptes mon présent ?» Callan prit délicatement Bravoure et la serra contre son cœur. Puis elle éclata en sanglots.